Africa.
Le grand débat sur Africa numéro 1 avec Francis Laloupo.
Africa numéro 1.
Merci de votre fidélité à l'écoute d'Africa numéro 1. C'est le grand débat de l'actualité internationale sur la radio africaine. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec nous dans cette édition. Professeur Yves Ekwe-Amaizo, consultant international, expert auprès de l'Union africaine, qui est au téléphone avec nous depuis Vienne. Yves Ekwe-Amaizo, bonjour.
Bonjour.
Et avec nous également Hichem Benaïch, rédacteur en chef du magazine New African. Hichem Benaïch, bonjour.
Bonjour.
Vous revenez là fraîchement, Hichem Benaïch, des États-Unis.
Oui, tout à fait. Je viens de passer 14 jours à Manhattan.
Oui.
C'est vraiment grisant. Il y a une énergie dans cette ville extraordinaire.
Oui. Alors, vous êtes rentré. Alors, est-ce que vous étiez là quand on a annoncé la mort de Ben Laden?
Ben oui, tout à fait. En fait, ça a coïncidé avec la fin de mon séjour. Effectivement, j'ai appris ici même à Paris la traque et l'assassinat en fait de Oussama Ben Laden. Et donc j'ai suivi cette affaire de très près parce que quand j'étais à Manhattan, évidemment, le lieu de pèlerinage aussi, j'étais sur place sur. La place où actuellement il y a une nouvelle construction.
C'est ça, le Ground Zero.
Ground Zero, exactement, mm-hmm. Et c'est vraiment une place incontournable parce que sur le bout de Manhattan, dans ce quartier des affaires très connu, le Midtown, mm-hmm. c'est un endroit incontournable.
Mm-hmm. Et je sens que vous avez encore dans votre corps comme ça et dans votre voix toute l'excitation new-yorkaise.
Tout à fait, oui. Vous avez vraiment bien compris, oui.
Le grand débat, analyse, décryptage, coup de gueule, commentaire. Le grand débat sur Africa numéro 1.
Là, avec vous, nous allons parler de ce phénomène, hein, ce phénomène donc qui aujourd'hui s'étend, devient un système en tant que tel. C'est le gel des avoirs de chefs d'État. Alors on apprend que la Suisse gèle actuellement 646 millions appartenant aux dirigeants nord-africains Ben Ali, Moubarak et Kadhafi. Alors respectivement 320 millions d'euros gelés pour Hosni Moubarak et les avoirs de Ben Ali bloqués depuis janvier et également Monsieur Kadhafi qui est toujours lui en exercice, il faut le signaler, et dont les avoirs sont également gelés en tout cas pour ces trois personnalités, 646 millions gelés en Suisse. Alors Yves Ekwe-Amaizo, le gel des avoirs des chefs d'État est devenu un système en soi?
Oui, c'est un système et c'est une question qui est relativement complexe, qui vient depuis l'ONU, et vous avez bien fait de parler de Ben Laden parce que c'est lié justement autour aussi tout le système terroriste. Mmh. Comment se finançait en fait tout le système du terrorisme, et on a vu que des systèmes très sophistiqués qui utilisaient les moyens les plus modernes en finance,
oui,
permettaient des échanges, des circulations. N'oubliez pas qu'on est en monnaie électronique, c'est-à-dire que c'est juste des écritures, hein, mmh, et qu'on passe par des fonds style Bahamas, donc des zones qui sont des zones finalement bien grise pour ne pas dire noire, dans lequel on ne sait pas trop ce qui se passe sur le plan financier dans les transferts, et donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de nettoyage. Alors, dans ce cas particulier, on quitte cette zone beaucoup plus de terrorisme vers les États. Et c'est le fond de votre question.
C'est ça, c'est
plutôt à ce moment-là geler les avoirs, oui, d'un État, et ce qui pose un autre problème de fond. Quand vous dites État, un État a bien le droit de créer un compte, mmh, dans n'importe quel pays au monde, et donc d'y mettre de l'argent pour faire ce qu'il a envie de faire.
Non, mais là, il s'agit, Yves Ekwe-Amaizo, de geler les avoirs des individus, parce que c'est clairement indiqué. Par exemple, en ce qui concerne l'ancien président égyptien, on dit que les fonds qui ont été gelés appartiennent à Moubarak personnellement et à son entourage, à sa famille.
C'est ce que je voulais vous faire dire, c'est que, mmh, vous avez bien précisé maintenant qu'il s'agit maintenant d'un gel privé, des fonds privés. Il se trouve que les personnes soient des présidents de la République ou des guides de Libye, mais ce sont des privés. Mmh. À ce moment-là, oui, ça devient une entorse à la loi de la bancaire. Et ce n'est possible que s'il y a une décision qui vient d'abord de l'ONU indirectement,
oui,
ou bien de l'Union Européenne quand on a le cas européen, ou carrément de la Suisse. Mais pour cela, vous savez qu'en droit, il faut prouver qu'il y a quelque chose d'illégitime dans tout ceci.
C'est ça.
Et c'est là que tout commence. Parce que c'est assimilé au bien mal acquis, c'est assimilé à la légitimité. Donc, en fait, on gèle, mmh, pour aller prouver sur le plan juridique qu'il y a quelque chose qui n'est pas très très clair, qui, mmh, n'est pas correct. Et à partir de là, on peut pousser plus loin, mmh, ce gel et neutraliser, bloquer, et à partir du moment qu'on a bloqué, bon, en enlevant tout ce qu'ils vont enlever, on va peut-être éventuellement décider de le rétrocéder à un nouveau gouvernement, si on est un gouvernement, ou carrément à d'autres, si on estime ou pas du tout. Il faut savoir aussi que ça ne retourne pas toujours.
Éventuellement, oui, parce que ça ne retourne pas toujours, comme vous dites. Est-ce que ce sont les autorités d'un pays qui sont habilitées à demander, par exemple, à un pays comme la Suisse de geler les avoirs d'un ancien chef d'État comme Moubarak, au nom, je dirais, des revendications légitimes de cet État, de ces nouvelles autorités?
Je ne présenterai pas la chose comme ça. Oui. Je dirais plutôt
c'est une question.
Un pays occidental de l'Union européenne qui a un mandat contre ce chef d'État et pour cela il bloque ou il neutralise ou suspende ses fonds privés dans un fonds, et plusieurs fonds d'ailleurs, plusieurs banques, et dont certaines banques sont en Suisse. Il va de soi qu'ils vont demander aux Suisses de coopérer.
Oui.
Et pour coopérer, les Suisses vont dire, écoutez, nous aussi nous allons donc suspendre ou geler, mais nous faisons notre enquête en tant que Suisses.
C'est ça.
Voilà. Et les autres pays feront pareil d'ailleurs. Et bien sûr, avec Interpol, ils arrivent plus ou moins à trouver un consensus ou pas du tout. Alors, il y a un deuxième élément, c'est quand ils trouvent un consensus ou pas d'ailleurs, certains demandent que les fonds repassent par chez eux. Ne vous faites pas d'idée si on demande, par exemple, que ça repasse par la France pour retourner en Tunisie.
Oui.
Par exemple.
Oui.
Alors que dans certains cas, quand il y a un rapport direct, le cas de Mobutu, c'est parti directement, pour une partie, en tout cas, de Suisse, vers l'actuel Congo démocratique.
Vers le trésor du Congo, donc, c'est ça?
Ben, une partie, mais très très minime.
Oui, très minime, oui. Alors, Hicham Ben Aïch, rédacteur en chef de New African. Alors, c'est un système ou pas?
D'abord, je salue Yves, que je connais bien et avec qui j'ai une relation régulière, donc je suis content d'être avec lui. Alors, pour répondre à cette excellente question, d'abord, c'est un système sûrement. Et je vous avoue que, devant une complexité de cette sorte, liée à des fonds de ce type-là, je me suis renseigné depuis plusieurs mois et depuis que on a commencé à parler de cet argent-là, parce que les non-experts ont beaucoup de difficultés pour identifier d'abord le sujet, identifier ce flux d'argent et savoir comment il circule. Et j'ai posé la question donc à des experts qui sont notamment aujourd'hui, c'est une information qui circule depuis maintenant un an et demi, la Banque africaine de développement a monté une structure juridique qui s'appelle Facilité juridique africaine pour traquer justement ce type d'argent. Et donc à ces experts-là, en fait, il faut ce qu'on appelle de l'assistance juridique en donnant de l'argent pour pouvoir recruter des avocats, des cabinets internationaux recrutés par la Facilité africaine pour pouvoir aider les pays à traquer l'argent. Et surtout, j'ai posé la question sur la traçabilité. Comment aujourd'hui peut-on tracer cet argent-là? Et aujourd'hui, effectivement, quand j'ai posé la question, la Banque africaine de développement, avant de proposer à la Tunisie de traquer l'argent du clan Ben Ali, ils ont commandé en interne une étude sur une évaluation de cet argent-là. Et ils m'ont dit, l'argent, c'est ils ont estimé cet argent-là entre 7 et 15 milliards de dollars. Et ils m'ont dit, même si la Tunisie arrive à récupérer 4 à 5 milliards de dollars, ça permettra au moins de pouvoir compenser le PIB, parce qu'aujourd'hui la Tunisie est en phase de transition, et son PIB a perdu 4 à 5 points. Donc dans tous les cas de figure, c'est un gain pour le pays et pour la Tunisie, notamment dans ce cas précis.
Vous nous expliquerez, Yves Ekwe Amaïzo et Hicham Ben Aïch, vous nous expliquerez quels sont les mécanismes très précis de récupération de cet argent qui est considéré comme de l'argent illégitime ou en tout cas obtenu par des voies illicites. Restez en ligne, nous allons écouter un auditeur qui nous appelle Monsieur Ba. Allô, Monsieur Ba.
Oui.
Nous vous écoutons, Monsieur Ba.
Oui, c'est Monsieur Ba, parce que mon question, c'est le président mauritanien.
Oui.
Oui, le président mauritanien, parce que lui, il fait les coups d'État, il dit qu'il va faire la démocratie, il n'y a pas de démocratie à Mauritanie, et puis nous les Noirs mauritaniens, on souffre beaucoup. Même si les Mauritaniens se terrorisent, nous, on n'est pas au courant. Donc le président mauritanien, là, il fait n'importe quoi. Même les Noirs aux télévisions, nous, c'est l'Arabe qui est la majorité, nous les Noirs, on n'est pas dans la télévision à mauritanienne. Ça pose des problèmes.
Hey. D'accord. Ouais. Mais, vous n'êtes pas tout à fait dans le sujet, monsieur Ba. Je suis très heureux de vous avoir au téléphone et dans l'émission, mais ce n'est pas tout à fait le sujet. Nous parlons pour l'instant du gel des avoirs des chefs d'État africains, enfin des dirigeants déchus, oui. Singulièrement. Restez avec nous quand même. Nous allons prendre un autre auditeur, monsieur Pierrot, qui lui va nous parler du gel des avoirs dans le contexte haïtien. Monsieur Pierrot, bonjour.
Oui, bon, je suis là, monsieur Francis. Oui. Ainsi qu'à vos invités.
Nous vous écoutons, et merci.
Je vous remercie de cette émission, parce que ça fait longtemps ce système existe. Je voudrais demander à vos invités, qui sont apparemment des professionnels...
Ben, diminuez un peu, s'il vous plaît, le volume de votre poste de radio, on l'entend, ça sera très bien pour vous et pour nous.
Oui.
Voilà, c'est mieux là.
Donc, je voudrais demander à vos invités, qui sont des professionnels, est-ce que... parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, vous avez le Congo, il y a pour Duvalier... Oui. Vous avez plein de dirigeants africains, oui. Surtout pour qui on précipite ces choses-là. On va geler. Mais pendant qu'on gèle, on voit le peuple est toujours dans sa situation compliquée. Oui. Si on prend la Tunisie aujourd'hui, qui a fait un travail formidable, il a fait chuter son dictateur. Et les Occidentaux sont les premiers à dire voilà le montant que M. Ben Ali possède chez eux.
C'est ça.
Et quand on regarde le peuple tunisien, mais si vraiment l'Occident aime le développement et veut que l'Afrique émerge, mais pourquoi ne pas trouver un consensus? C'est la question que je voudrais poser à vos invités. Pourquoi ne pas trouver un moyen pour permettre à tous ces Tunisiens que je vois qu'aujourd'hui en France, on les renvoie par centaines dans leur pays.
D'accord. C'est très clair, oui, c'est très précis. Hichem Ben Aïch et Yves Kouama Issoufou vont vous répondre dans quelques petites minutes. Nous marquons une pause et nous revenons dans deux minutes, mais au maximum. Restez avec nous.
Africa. Le grand débat sur Africa numéro 1 avec Francis Laloupo.
Africa numéro 1.
Merci de votre fidélité à l'écoute d'Africa numéro 1 dans le grand débat d'aujourd'hui. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec Dominique Koukou qui nous a rejoint. Dominique Koukou, avocat et pasteur. Dominique, bonjour.
Bonjour Francis.
Merci d'être là et avec nous pour ce débat. Le professeur Yves Ekouéama Iso, consultant international, expert auprès de l'Union africaine, qui est avec nous au téléphone depuis Vienne. Et Hichem Ben Aïch, rédacteur en chef du magazine New African, qui revient des États-Unis. Messieurs, alors, donc on écoutait tout à l'heure un éditeur qui posait donc en substance cette question, à qui profite finalement ce gel des avoirs des personnalités, enfin des chefs d'État déchus, Hichem Ben Aïch?
Oui, en fait, il faut dire qu'il y a une hypocrisie et une schizophrénie dans cette affaire-là. Avant de parler de gel, pendant des années, on a fermé les yeux sur cette espèce de fuite de capitaux, cette espèce de prévarication qui concernait des entreprises travaillant avec l'Afrique et même l'argent des familles de chefs d'État et autres. Et tout cet argent était... Donc s'orienter, il allait dans les comptes numérotés en Suisse, oui. Ou en France ou ailleurs, ou même dans les paradis fiscaux. Donc il y a une autre nuance dans cette affaire-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis les attentats du 11 septembre, oui. C'est-à-dire qu'on a mis en place un mécanisme pour contrôler toutes les transactions financières.
D'accord.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a à la Banque mondiale une unité des opérations qui comptabilise toutes les opérations et les transactions financières.
Oui.
Et c'est par ce biais-là qu'on peut avoir cette traçabilité. Donc ça c'est un aspect.
Oui.
Quand on parle de gel, évidemment, là c'est absolument abstrait parce que on peut geler l'argent mais ne jamais le toucher. Parce que les
D'accord.
procédures sont tellement complexes. Il y a une mise en place de parce qu'il faut prouver cet argent-là. L'argent qui a été... en fait, et vous imaginez bien que beaucoup de chefs d'État ne mettent pas l'argent en leur nom propre. Il y a énormément d'hommes écrans, ou sociétés écrans,
oui,
ou en tout cas des filières permettant de placer cet argent et de lui permettre d'échapper à tout contrôle ou à toute identification possible.
C'est ça.
Donc il y a vraiment, et c'est pour ça que nous concernons cette unité africaine, c'est le rôle des avocats, de pouvoir monter les dossiers et s'adresser, c'est pour ça qu'ils ont, la Banque africaine de développement a demandé, les Tunisiens ont monté une structure, comme d'ailleurs plus tard les Égyptiens, ils sont concernés aussi, et ils sont dans le champ de la Banque africaine de développement, et notamment de la facilité juridique africaine, pour monter une structure domiciliée dans un ministère, en tout cas le premier ministère ou la banque centrale ou ailleurs, pour pouvoir rassembler tous les éléments, leur de donner une cohérence et pour pouvoir travailler sur ces dossiers qui sont d'une complexité inimaginable. Il faut pas penser que si on intente un procès aujourd'hui ou on fait une demande, demain on va toucher l'argent. C'est pas du tout.
Ça bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué.
Une dizaine d'années. Donc c'est une histoire très longue. Hein.
Ouais. Il veut quoi, Maïzo?
Les deux intervenants sur la Mauritanie et le Haïti sont dans le sujet. Je vais vous dire pourquoi.
Dites-nous.
Vous savez, tout est lié quand même toujours soit à des coups d'État qui sont bien ou mal passés, soit à des dictatures qui ont pris à la tête de pays sur lesquels il y a eu beaucoup de silence. Et puis de temps en temps, on se réveille qu'on essaye de faire un peu de propreté, transparence, démocratie. Et c'est à ce moment-là qu'on s'intéresse à ce côté de l'argent. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut absolument lui donner un caractère universel. Voilà pourquoi on essaie de passer soit par l'ONU, de temps en temps par une cour pénale quelconque qui condamne l'individu en question, ou tout simplement des sanctions plus ciblées de structures régionales, type l'Union Européenne, voire la Suisse. Donc voilà un peu le cadre global dans lequel tout ça se met en place. Mais il faut faire très attention, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit par mon ami tout à l'heure, c'est que dans la traçabilité, quand nous regardons d'un peu plus près, on s'aperçoit qu'elle est quand même à sens unique. C'est-à-dire qu'elle va quand même toujours à condamner finalement quelqu'un ou quelque chose qui se passe vers un pays, entre guillemets, faible, sous influence africain.
Il veut quoi, Maïzo? Alors, qu'est-ce que vous pensez justement de cette initiative de la BAD, hein, cette facilité juridique africaine? C'est une manière d'africaniser le gel des avoirs?
Tout à fait, mais vraiment, d'abord non, c'est surtout de donner des moyens aux États qui en font la demande pour pouvoir tracer l'argent et le récupérer. Et je crois que c'est vraiment... Et ça, c'est la banque africaine joue la cohérence et la carte africaine complètement. Parce que cette expertise qui est absolument unique, permettant aux cabinets internationaux de pouvoir se pencher à travers la complexité de ces dossiers pour pouvoir... parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le montage du dossier qui va vous permettre de récupérer ou non l'argent demain. Donc, il est essentiel d'être en amont et de pouvoir travailler complètement les dossiers pour pouvoir être du bon côté.
Hicham, demandons à Yves Ekwe-Amaizo ce qu'il en pense de cette initiative, parce que Yves Ekwe-Amaizo, vous êtes sur le terrain de la finance internationale au quotidien. Est-ce que c'est une initiative qu'on peut saluer? C'est une bonne nouvelle que la BAD africanise, je dirais, ces mécanismes?
Bah, le mot africanisme me gêne un tout petit peu, puisque vous savez qu'il y a des régionaux et des non-régionaux à la banque. Et qu'en fait, en termes d'argent, c'est quand même souvent les non-régionaux qui, notamment au fonds FAD ou même sur le fonds BAD, sont les plus puissants actuellement.
D'accord.
Donc disons simplement que c'est un mécanisme qui est mis à disposition, et là, je partage ce qui a été dit. Là où le problème commence, c'est qu'il faut savoir pourquoi on vient sur ce fonds. D'abord, le fait qu'il existe, c'est déjà une très bonne chose. Ça, il ne faut pas se faire d'idées là-dessus, c'est une très bonne chose. Maintenant, le problème est de savoir qu'est-ce qu'on vient y faire. Vous savez, il y a des fonds vautours, vous vous rappelez, il y a eu toute une période, on a parlé des fonds vautours. Ça veut dire concrètement qu'une décision de tribunal en Grande-Bretagne, par exemple, ou aux États-Unis, décide que vous n'avez pas payé votre dette X au Congo, par exemple, et votre bateau qui prend du pétrole pour aller livrer en Chine, je vais l'intercepter et je prends la livraison du pétrole qui devient ma propriété parce qu'il y a une décision juridique. Voilà.
D'accord. Alors,
ce genre de choses, cet argent, par exemple, qui va circuler...
Yachem Benaïch intervient là.
Et la facilité africaine s'attaque au cœur à ce sujet. Hein.
Absolument. Non, je suis d'accord. J'essaie de d'expliquer. Il faut d'abord qu'on comprenne bien comment ça marche. Non, j'explique là pour le moment. Non, voilà, possibilité. Les fonds
expliquer.
Et là, il y en a une autre, celle que vous dites, c'est-à-dire que moi, je suis État. Je ne voudrais pas que des fonds d'argent sale viennent dans mon budget en tant qu'État. Bon, je demande les services de la Banque africaine, à travers sa facilité juridique, elle va tenter avec ses avocats justement de regarder si c'est propre ou si ce n'est pas propre. Mais la banque elle-même, elle peut très bien se faire envahir par des fonds sales. Et donc, à ce moment-là, elle va prendre de l'argent sale pour financer le développement africain.
Mais est-ce que les banques, en général, Ivoyekoué, sont très regardants sur la provenance des fonds, sur la qualité des fonds, sur l'odeur de l'argent, en quelque sorte?
Oui, parce que vous avez d'abord plusieurs États membres.
Oui.
Et que tous les États membres n'ont pas envie de se retrouver avec de l'argent sale, parce que derrière l'argent sale,
oui,
vous avez le terrorisme, vous avez beaucoup de choses qui, oui, ne sont pas très, très correctes. Vous avez le
l'argent. Justement, Yves, une fois, je posais la question, hein, ça, c'est une expérience vécue. Je posais la question à un membre de l'UEMOA en Afrique de l'Ouest.
Oui.
Je lui disais, quand même, il y a des pays comme le Burkina Faso, le Bénin, enfin, un certain nombre de pays comme ça en Afrique de l'Ouest, dont on voit très bien que, je veux dire, que la masse monétaire circulant dans le pays n'est pas conforme, je dirais, aux ressources du pays. Il y a forcément une économie artificielle.
Juste, parallèle,
voilà, y compris même, je dirais, des trafics d'armes, des trafics de diamants et autres, etc. Suivez mon regard.
Absolument.
Et alors, je dis, pourtant, cet argent, vous l'absorbez au sein de l'UEMOA. Et il m'a répondu ceci, il m'a dit, le plus important, c'est que la sous-région puisse bénéficier d'une masse monétaire suffisante, de ressources suffisantes. Il y a un moment où on n'est pas tellement regardant sur la provenance et la nature, je dirais, de ces fonds.
Oui, mais là, vous avez parlé d'une structure qui rassemble des structures politiques. C'est les États. L'UEMOA, l'Union économique monétaire ouest-africain, c'est une structure d'État.
C'est ça.
Alors, avant, vous avez posé la question sur des banques. Les banques, c'est un peu plus complexe, parce qu'eux, ils ont des obligations vraiment de vérifier, etc. Mais un État, lui, il veut en gros que la croissance du pays fonctionne.
Oui.
Et donc, à l'intérieur maintenant de cette masse, vous avez des injustices, des inégalités terribles. Et donc, vous avez un monde parallèle qui peut fonctionner sur la base des armements, de la drogue, de tout ce que vous voulez.
C'est ça.
Et beaucoup d'États, justement, pourquoi des pays comme le Togo ont pu vivre pendant 10 ans avec les sanctions européennes et sans aucun problème? Ils,
oui,
ont tous grossi pour les plus grands. Et c'est que ce monde parallèle a fonctionné.
Bien sûr.
Seulement, voilà, les gens ne sont pas trop regardants parce que ça permet une certaine croissance, d'une certaine catégorie. Voilà pourquoi je disais que la traçabilité tout à l'heure, elle était à sens unique.
D'accord, très bien. Voilà. C'est
donc,
très clair. Comprenez.
Alors, je voulais quand même expliquer à vos auditeurs.
Allez-y.
Vous avez posé la question rapidement, comment ça se passe? Donc, je voulais donner 5 ou 6 étapes rapidement.
Allez-y.
Il faut une décision juridique. Bon, il faut le caractère universel d'une sanction. Après, il faut une décision juridique quelque part. Si elle n'est pas juridique, elle est commune à un groupe, les Nations Unies, l'Union Européenne, etc. Derrière des sanctions ciblées. Et à ce moment-là, il faut chiffrer le montant. Donc, mon ami l'a dit tout à l'heure, que là-bas, a dû chiffrer un montant X pour la Tunisie, etc.
Quand
ce montant, une fois qu'on l'a fixé, sachez d'ailleurs que tout ce travail, ça coûte de l'argent, qui vient en déduction de l'argent déposé, entre parenthèses. Et puis maintenant, il faut prouver que c'est illégitime, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, ça peut prendre un temps fou. Et comme il a dit tout à l'heure, ça peut aussi arriver qu'on ne finisse jamais ce travail-là. Pendant ce temps, il y a des coûts qui sont enlevés parce qu'il n'y a plus grand-chose sur la somme. Alors maintenant, il va s'agir de récupérer, donc il y a une demande qui se fait de l'État vers le pays en question, qui peut l'accepter ou pas, et qui peut trouver des tas de modalités qui, chaque fois que vous transférez l'argent, une somme X, 10%, 15%, 20% disparaissent, qui fait qu'en fin de parcours, vous ne touchez plus grand-chose. Et encore, faut-il pas qu'il y ait un intermédiaire. Ce que je disais tout à l'heure, que si ça passe de Suisse, France, avant d'aller en Tunisie, il est fort probable qu'une partie, surtout en période électorale, une partie disparaisse. Voilà, en gros, rapidement, le mécanisme.
Hicham, Benaïch.
C'est pour ça que, d'ailleurs, les experts de la Facilité africaine demandent de domicilier, en donnant la nature des experts pour pouvoir suivre cet argent-là. C'est-à-dire qu'il faut que les pays ne passent pas par des ONG occidentales ou étrangères pour que l'argent puisse être suivi, que l'expertise soit locale, pour qu'il y ait une cohérence. Et Yves a tout à fait raison de dire d'une certaine façon, il est important de pouvoir être dans une connaissance intime des dossiers, des acteurs, pour pouvoir avoir la chance de toucher l'argent, vu les procédures qui sont extrêmement complexes. Et je pense aussi, il y a un autre aspect dont on ne parle pas tout à l'heure, je parlais de schizophrénie, parce que pendant longtemps, vous savez, l'argent sale, c'est un phénomène global, c'est planétaire.
Oui.
Et c'est quoi les paradis fiscaux? C'est-à-dire que beaucoup de pays occidentaux s'arrangent pour que, parce que certaines entreprises et les grandes entreprises, par exemple dans le cas de Ben Ali ou en Algérie ou ailleurs, en fait renvoient sur des comptes numérotés au nom de grandes familles qui sont liées à l'univers des affaires pour pouvoir ce qu'on appelle les dessous de table.
D'accord.
Et cet argent-là est acheminé sur des comptes numérotés en Suisse ou ailleurs. Donc,
Hicham Benaïch, Restez avec nous, Hicham Benahir, restez avec nous, rédacteur en chef du magazine New African, professeur Yves Kouamaïso, consultant international, expert auprès de l'Union africaine. Restez avec nous, on poursuit ce débat dans quelques instants. On marque une pause, on écoutera d'ailleurs les auditeurs qui attendent, Ibrahim Alassane. On écoutera, on sera en studio, on est en studio avec Dominique Koukou, qui nous donnera donc son commentaire tout de suite, donc après cette pause, restez avec nous.
Africa. Le grand débat sur Africa numéro 1 avec Francis Laloupo.
Africa numéro 1.
Merci de votre fidélité à l'écho d'Africa numéro 1. C'est le grand débat de l'actualité internationale sur la radio africaine. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec nous dans cette émission. Professeur Yves Kouamaïso, consultant international, expert auprès de l'Union africaine. Il est avec nous depuis Vienne au téléphone. Hicham Benahir, rédacteur en chef du magazine New African. Et avec moi en studio, Dominique Koukou, avocat et pasteur. Nous poursuivons ce débat sur le gel des avoirs des chefs d'État déchus, hein, des déchus singulièrement, enfin du moins plus particulièrement, et puis surtout avec cette question, à qui profite le gel de ces avoirs et surtout par quel mécanisme on pourrait parvenir à une restitution juste de ces avoirs. Nous en parlerons, on y reviendra tout à l'heure précisément, mais en attendant nous allons écouter un auditeur, c'est Monsieur Ibrahim qui était très patient jusqu'à maintenant. Ibrahim, bonjour. Et je n'attends pas Ibrahim. Il n'est pas là, et l'autre auditeur non plus n'est pas là. Alors, donc, vous allez écouter Dominique Koukou, mais Dominique Koukou, nous vous écoutons.
Mais d'abord, moi, je voulais saluer la qualité de nos intervenants. C'est vraiment des experts, et moi, je personnellement, je les remercie beaucoup.
Hicham Benahir chez Yves Kouamaïso.
Voilà, félicitations. Je suis... dans mon livre, ça m'intéresse d'autant plus que c'est ma spécialité, la spécialité monétaire. Le livre que j'avais publié sur monnaie africaine, j'abordais un peu cette question-là. Hein, un livre qui est sorti chez l'Harmattan. Je crois que c'est bien qu'à un moment donné, il y ait des experts qui sortent des cabinets pour pouvoir expliquer au grand public les mécanismes, comment ça se passe, la difficulté qu'il y a, parce que c'est vrai que pour tout pays, pour toutes surtout des pays émergents, où quand il y a tout d'un coup une révolution qui se passe, on a envie de savoir, bon, mais l'argent qui est parti, comment le peuple peut en bénéficier. Et c'est aussi important de dire que c'est d'ailleurs une des rares fois où je vois le rôle des avocats qui soit mis en exergue.
Oui.
C'est vrai qu'on a toujours le sentiment que l'avocat est là pour beaucoup plus pour le barreau, mais c'est important aussi de voir qu'il y a des avocats internationaux qui peuvent en amont préparer des dossiers. Et je suis particulièrement très, très fier que la BAD ait pu penser à ce mécanisme de facilité juridique. Je sais qu'ici, à Paris, il y a des cellules spéciales au niveau du tribunal qui, c'est même devenu des pôles spéciaux, ce qu'on appelle les pôles financiers,
oui,
qui sont là pour étudier, pour vérifier la traçabilité de l'argent, pour voir aussi, dès qu'il y a un doute quelconque, maintenant d'ailleurs, il n'y a pas d'argent qui passe souvent dans les banques sans qu'il y ait des questions, des questionnements qui puissent se faire. Et je suis content et très fier que la BAD ait pu penser à cette structure de facilité juridique. Par contre, la question qui se pose, c'est que on a toujours quand même tendance à voir la chose pratiquement en aval. C'est-à-dire que quand il y a chute d'un dictateur, oui, à ce moment-là, maintenant tout le monde crie dans le monde entier, il avait 7 milliards, il a ceci,
oui,
maintenant on va geler les fonds, ainsi de suite. Et bon, et tel que nos experts sont en train de nous dessiner la figure elle-même,
oui,
on se rend bien compte que ce n'est pas du jour au lendemain. D'ailleurs, quand on a Ben Ali, quand il est parti, tout le monde a dit, bon, la France gèle, ainsi de suite, mais on nous a jamais dit où est allé ce gel, est-ce que ce gel aboutit, est-ce qu'ainsi de suite, oui, vous voyez.
Est-ce que vous demandez finalement pourquoi ne capte pas ces avoirs pendant que ces personnes sont encore au pouvoir, c'est ça?
Moi j'ai le sentiment que si justement on commence à mettre des structures comme des facilités juridiques africaines, il est peut-être important d'arriver à titre provisionnel.
Oui.
Moi j'ai un compte, bon, les gens savent quel est, oui, je dis la banque sait qu'est-ce que j'ai dans mon compte. C'est-à-dire qu'à titre provisionnel, on peut arriver, ne fût-ce que même par le mécanisme des balances de paiement, tout cela, arriver à regarder, avoir au moins un zoom sur les avoirs des personnes.
Oui.
Et aussi, à ce moment-là, puisqu'ils sont encore au pouvoir, on peut identifier les prête-noms, on peut identifier les gens qui font écran.
Vous voulez dire qu'il faut faire la police à tout chef d'État pendant qu'il est en exercice? C'est un peu compliqué.
C'est même pas la police.
Tout chef d'État n'est pas suspect,
définition. Non, mais il s'agit pas de police, il s'agit simplement d'arriver, surtout quand on parle au nom des pays. Je sais que ce que je propose n'est pas facile à faire.
Oui.
Parce qu'il y a toujours la souveraineté nationale, beaucoup de...
Et puis qui doit-on surveiller? Qui ne doit-on pas pouvoir surveiller, c'est ça la question.
Mais c'est même pas un thème de surveillance, un thème simplement d'état de lieu.
Oui.
Savoir.
D'état des lieux.
Oui, oui, bah oui. Quel est l'état des richesses de tel pays? Oui. Et dans cette richesse, quelle est la part qui revient au gouvernement? Moi, je me rappelle quand j'étais à la Banque Centrale, j'étais à ce moment-là agent, je crois que c'était le service de crédit. Un jour, il y a un rapport qui est sorti, le service avait sorti un rapport, où on disait que on sent bien qu'une grande partie de la richesse du pays, il y a des signaux qui montrent que cette richesse va vers la Suisse. Ngouabi, à l'époque, était président, il a réuni tout le monde.
Vous parlez du Congo-Brazzaville, la Banque Centrale, oui, oui. Congo-Brazzaville, bien sûr.
Et Ngouabi a réuni les gens parce qu'il voyait bien que ce ciblage le touchait d'une manière ou d'une autre. Mais évidemment, bon, ça finit par des invectives, ça finit ainsi de suite. Mais bon, est-il que la Banque Centrale avait quand même signalé, avait signalé des faisceaux? Et je me demande, parce que autrement, ça fait toujours précipiter.
Oui.
Ça fait toujours précipiter.
On va demander à Yves Kouamaizo, c'est une question, prosaïquement, c'est vrai que bon, on pourrait éventuellement, évaluer ses avoirs pendant que ces personnes sont en exercice, ces chefs d'État, et ne pas, à chaque fois annoncer leurs avoirs après leur chute comme une sorte d'oraison funèbre.
La question est très juste. Ce que je peux vous dire, ne vous faites pas des idées sur la réalité. Vous avez ce qui est quantifiable et donc visuel. Donc vous pouvez effectivement voir au niveau des banques centrales ou le Fonds monétaire international éventuellement, en sachant que l'Afrique est en train de préparer son Fonds monétaire africain.
Oui.
Et puis vous avez tout ce que vous ne voyez pas, dont vous avez parlé tout à l'heure aussi, y compris une partie des fonds transférés par la diaspora d'ailleurs. Oui. Donc cette partie que vous ne voyez pas, ben, ça va être difficile de le quantifier, de le mettre sur papier. Oui. Mais non, quantifier n'est pas le problème en soi. Si chaque État joue le jeu, comme a dit le collègue tout à l'heure, il n'y a aucun problème en soi pour déclarer ce que vous avez. Après tout, chaque individu peut bien déclarer, s'il est sérieux, il peut déclarer.
Bien sûr.
Moi, je voulais attirer votre attention de ne pas trop penser que tout se fait comme ça, d'individus, d'avocats et tout ça. Il y a des grands cabinets.
Oui.
Qui ne travaille pas toujours dans le sens du bien. C'est la traçabilité dont on parle.
Oui.
Elle peut être dans un très bon sens, qu'on peut être dans le sens négatif.
Bien sûr.
Qui a donné d'ailleurs les fonds vautours. Alors, j'essaye de vous d'attirer votre attention sur ce qu'on appelle les fonds souverains. Mmh. Prenons un exemple concret qui est aujourd'hui, qui est la Libye.
Ben, les fonds souverains de la Libye, voilà. C'est un bon exemple.
Oui. Énorme, Libyan Authority, oui. Investment, qui est un peu partout. Mmh. Je prends le cas de l'Autriche. Sachez qu'ici, il y a plus de 40 entreprises, si ne pas dire 80, mais en tout cas 40 connues, les plus grandes d'ailleurs, des grands hôtels, je tairai les noms,
oui.
Où ils sont actionnaires.
Oui.
Donc un fonds souverain, c'est l'argent de la Libye,
oui.
Mis dans un fonds, et ce fonds rentre un certain nombre d'entreprises, très souvent déficitaires, et qu'on vient éponger dans ce déficit, et du coup, on prend part au capital, et puis on y reste, tout simplement. Et ceci depuis des années, c'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Ce qui fait que beaucoup de pays en profitent d'ailleurs pour faire des fausses dettes pour pouvoir récupérer cet argent en investissement. Donc on se dit que l'investissement part en Afrique, part de l'Afrique vers l'Occident.
Mais dites-moi Yves, dites-moi, c'est une question de profane, les fonds souverains ça n'a rien de suspect a priori.
Mais bien sûr, c'est pas, mais un fonds souverain, vous avez de l'argent,
oui.
Monsieur Laloupeau, vous mettez de côté, ça commence à s'accumuler, vous arrivez à 1 million, ce qui fait que vous serez derrière plus loin où vous êtes,
oui.
Mais à ce moment-là vous décidez d'aller investir dans 3 grands hôtels en Autriche.
Il voilà.
y a rien de suspect, il n'y a rien de plus naturel.
Oui.
Seulement, voilà ce qui se passe, c'est qu'un jour, on s'aperçoit que vous êtes chef d'État et que vous avez l'ONU sur le dos pour telle ou telle histoire de coup d'État, je ne sais trop quoi.
Mmh.
Et du coup, on gèle maintenant vos avoirs dans les 3 hôtels autrichiens.
Mmh.
Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Mais à qui, la question est bien posée, à qui profite tout ceci?
C'est ça.
Ça va profiter, au fait, aux actionnaires qui vont dire, écoutez, si la police arrive à déterminer l'illégitimité de ce fonds-là,
oui.
Ben, vous avez en fait transféré votre richesse à la société en question autrichienne.
Ah, mais justement, c'est intéressant ce que vous dites, Yves Kouamaizo, parce que je pose la question à Hichem Benaïch. Finalement, pendant qu'on gèle les fonds,
oui.
Que ce gel profite aux banques où se trouvent ces fonds-là?
En tout cas, indéfiniment. On connaît, juriste et on connaît le dossier. Il
oui.
faut à ce moment-là demander de tous les intérêts
oui.
pour que ça soit comptabilisé évidemment dans tout le processus parce que c'est une affaire d'experts. Évidemment, l'argent, il a une manière de vivre dans les comptes. Il y a des règles et je pense que quand on est bien informé, on
oui.
arrive à véritablement récupérer. Il y a moyen de récupérer. L'argent dans sa totalité, évidemment.
Non, mais Hichem,
n'a pas été restitué parce que les dossiers n'ont pas été suffisamment bien montés, etc. Voilà toute la difficulté est là. C'est-à-dire qu'il y a aussi des règles et il faut suivre des procédures et surtout apporter les preuves nécessaires.
Oui.
pour pouvoir prouver que tel argent appartient à Ben Ali ou à un autre chef d'État.
D'accord. Et Yves Ekwe, dites-moi, professeur, hein, là, oui. Je pose la question au professeur. On prend l'exemple de Jean-Claude Duvalier. Ses fonds sont gelés depuis 20 ans, par exemple.
Haïti, oui.
Voilà. Pendant que ces fonds sont gelés, cet argent fait des enfants, si j'ose dire. Et à qui ça profite
en attendant? Attendez, si je suis une banque et que vous avez mis de l'argent chez moi, sur lequel j'ai une chance inouïe qu'il y a une décision universelle ou d'un pays ou d'une région pour le geler, écoutez, d'abord ça produit en plus. Mais moi qui suis le gestionnaire de ce fonds, je peux vous dire que je suis en train de vous offrir un service bancaire pour prendre contrôle d'abord des montants, les calculer et de les mettre au frais pour prendre le mot exact. Oui. Et je vais vous facturer et je vais vous mettre un pourcentage. Donc cet argent, une commission que je vais verser dessus, va rentrer dans ma poche automatique. Hein.
Oui.
Donc ça veut dire que je me rémunère sur le gel qui peut durer longtemps.
D'accord. Donc
ça, c'est la première chose. Écoutez, ça arrive à n'importe qui. Hein. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de nouveau. La banque africaine, comme n'importe quelle banque, quand ils font un prêt, si vous ne dépensez pas l'argent tout de suite, pendant que l'argent dort alors que vous l'avez emprunté, ben écoutez, il y a des sommes qui sortent, hein, et ce n'est pas pour vous. Hein. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut voir là-dedans, qui est beaucoup plus complexe, on est toujours sur le côté, l'argent est physiquement dans une banque, on peut travailler. Je ne parle pas des investissements en portefeuille, comme j'ai dit tout à l'heure.
D'accord.
Parce que je vous donnerai cet exemple encore, c'est un peu plus complexe. Bon, continuons la deuxième partie. Maintenant, quand vous demandez des transferts, par exemple, il faut voir, l'argent est souvent découpé. Il y a des parties qui sont en actions, il y a des parties qui sont sous telle ou telle forme d'instruments monétaires ou d'instruments financiers. Mais chaque fois que vous faites ces déplacements-là, chaque fois, on va vous massacrer, on va vous mettre une commission dessus.
Mon cher Yves, je suis obligé de vous arrêter pour l'instant. Je vous demande de suspendre votre propos, mais vous allez le reprendre là où nous l'aurions suspendu dans quelques petites minutes. Restez avec nous, Yves Ekwe Amaïzo, Hichem Ben Aïch, les auditeurs également, évidemment. Restez avec nous, on se retrouve après une pause publicitaire, après également un flash info, et le grand débat continuera. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h, évidemment. Restez avec nous.
Africa. Le grand débat sur Africa numéro 1 avec Francis Laloupo.
Africa numéro 1.
Merci d'être à l'écoute d'Africa numéro 1, le grand débat de l'actualité internationale sur la radio africaine jusqu'à 20h. Nous sommes en compagnie de Dominique Koukoun, avocat et pasteur, qui est aujourd'hui débatteur polémiste un peu solitaire, hein, de Dominique.
Ah, je m'en plains pas.
Voilà, très bien. Je suis très heureux d'être avec vous aussi. Avec nous au téléphone depuis Vienne, professeur Yves Ekwe Amaïzo, consultant international, expert auprès de l'Union africaine, et Hichem Ben Aïch au téléphone également. Hichem Ben Aïch, rédacteur en chef de New African. Merci d'être là. Merci à tous. Nous poursuivons ce débat sur le gel des avoirs. Alors, le gel des avoirs, est-ce que c'est une nouvelle arme? À qui profite ce gel? Alors dites-moi, Yves Ekwe Amaïzo, il faut dire que il faut se poser la question, où va l'argent? Enfin, on sait que en ce qui concerne l'Afrique, par exemple, l'argent part du sud, donc de l'Afrique, vers les destinations européennes. Or, depuis quelque temps, on assiste à une diversification de ces destinations, c'est-à-dire que l'argent des chefs d'État commence aussi à prendre le chemin de l'Asie, par exemple, la Chine, par exemple.
Mais depuis les fonds vautours, l'argent a commencé à prendre la tangente, comme on dit dans le langage. C'est-à-dire que à partir du moment où on peut pas aller en ligne droite vers le nord, sud-nord, on prend la tangente, on va vers l'Asie.
Oui.
Et cette Asie, mais vous avez des espaces assez importants, vous avez des très très grosses banques. Mmh. Et puis l'avantage, c'est que en fait, ça peut revenir en Afrique sous forme de troc et donc de fourniture de contrats, d'infrastructures, contrats d'équipement, contrats d'agriculture, contrats d'espace. Mmh. Le foncier africain souvent est vendu, acheté sous cette forme-là.
Oui.
Et là, c'est très très difficile d'aller identifier quoi que ce soit, puisque il n'y a plus de traçabilité justement. Mmh. Et ça, ce sont des accords de gré à gré entre des États. Imaginez ce qui se passe entre la Chine et le Zimbabwe ou la Chine ou la Somalie, voilà, pour donner quelques exemples comme ça au hasard.
Mm.
Hein. Mais ce que je voulais dire, la question est quand même bien posée, c'est-à-dire à qui profite cela? Je voulais finir sur ce que je disais tout à l'heure.
Allez-y, mon cher.
On
reviendra à la Chine tout à l'heure.
Voilà, dans le cas particulier où, bon, l'argent est quand même arrivé ici, quelque part, et sur des comptes, ou dans le cas des investissements en portefeuille, en tant que action dans des entreprises occidentales, quand c'est gelé, mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous l'avez perdu. Vous avez fondamentalement perdu votre richesse.
Ah oui?
Ah ben oui, attendez, quand l'argent est placé, tout l'argent du franc CFA, quand il vient sur le compte d'opération, qui est le fait le trésor français, qui n'est pas la banque centrale,
d'ailleurs,
le trésor français, et que la France doit le placer, et que la France, entre guillemets, se trompe, ou le trésor se trompe, donc a perdu l'argent, donc la richesse, 60% en gros, de la richesse africaine, écoutez, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Et ça peut même être utilisé de manière très intelligente, dans le sens que on prévoit d'avance qu'on va tout perdre pour pouvoir éponger, par exemple, la dette de la partie Afrique de l'Ouest, avec l'argent de l'Afrique de l'Est, centrale. Attendez, j'essaie de vous montrer qu'il y a des mécanismes très subtils et qu'il ne faut pas tomber seulement dans l'histoire d'un chef d'État qui met quelque part, qui se fait perdre son argent. C'est très structuré par des cabinets qui organisent ça de très très bien. Et là, je peux vous garantir, ceux qui font la traçabilité oublient d'informer vous les journalistes, encore moins le public.
Ah bah oui, surtout pas nous.
Voilà, alors pour ce qui est du mécanisme vers donc la tangente, vers le côté Asie, oui, c'est un mécanisme qui a commencé depuis très très longtemps. C'est pour ça que les montants qu'on dit, en fait, il faudrait regarder en réalité si c'est vrai.
Oui.
Parce que beaucoup de ces montants ont largement été transférés. Si Mme Merkel n'a pas pu attraper la plupart des Allemands qui ne payaient pas leurs impôts, en fait, et qui avaient transféré l'argent un peu à gauche, à droite, y compris en Suisse, c'est parce qu'au moment où elle avait commencé son histoire, c'est déjà parti dans les fonds Bahamas, dans les fonds à gauche et à droite, où en fait, il n'y a pas d'impôts, mais y compris dans les pays de l'Est. Oh. Imaginez quand vous transférez toute une usine, par exemple, une usine textile d'Allemagne vers un pays X en Asie, mais tout cet argent s'est payé comment ? Mais vous rentrez en action là-bas.
On parle des pays du Golfe aussi, Yves. Oui.
Bien sûr. Tous les pays où vous avez une masse d'argent importante. Et d'ailleurs, ce qui se passe, c'est que cet argent rentre directement dans les fonds souverains de ces pays-là.
Il y a une vie
ce fonds représenté ici en Europe, pour le cas de l'Autriche par exemple, où le monsieur que vous allez voir, vous avez saisi l'argent, mais le monsieur que vous voulez attraper par la police, mais le monsieur, il a une nationalité européenne.
D'accord.
Il a une nationalité parfois américaine, mais souvent européenne. Et donc, vous n'allez pas mettre un Européen en prison, et quand il dit que c'est son argent, surtout s'il vous finance. Mmh. Et je finis le tableau, c'est que quand cet argent rapporte du bénéfice, d'ailleurs, des fois quand il ne rapporte pas d'ailleurs, 10, 20, 30%
oui.
vont directement financer les partis politiques, surtout en campagne électorale. Alors vous imaginez que la traçabilité, quand je vous dis qu'elle était vraiment, vraiment à sens unique, voire unilatérale, vous comprenez mieux ce que je suis en train de dire.
On comprend, mais Hichem Benaïch, vous qui vous intéressez beaucoup à la Chine, justement, on parlait de la Chine comme aujourd'hui l'un des derniers domiciles connus de cet argent, de cet argent, disons, de ces fonds secrets.
Oui, mais en fait, vraiment, Yves l'a esquissé, mais je pense qu'aujourd'hui, l'acteur chinois, en termes de corruption et de cette ce nouveau paradis fiscal, si je puis dire, qui est la Chine, est un acteur qui pèse très très lourdement sur la réalité africaine. Malheureusement, les Chinois, moi j'étais à Dakar, j'étais partout en Afrique, mais je peux vous dire que certains marchés sont trafiqués. Et très souvent, les Chinois ont un pouvoir corrupteur extrêmement fort. Il ne s'agit pas de faire une généralisation, mais en tout cas, ils ont une capacité en termes de ce type de négociation qui est absolument une nouvelle donne en Afrique. Et ça, c'est malheureusement, ça va aggraver encore les problèmes parce que cet argent-là.
Oui.
Placé en Chine, il est impossible de pouvoir le tracer ou tout cas le suivre et il peut effectivement revenir d'une autre manière ailleurs. Il a parlé justement de... Il y a un tas de formes, notamment les transactions, le troc, etc. La Chine a un arsenal entre les mains pour pouvoir négocier ses intérêts en Afrique. Et ça, c'est vraiment... Et puis, l'autre aspect, pendant des années, on a pratiqué l'omerta.
Oui.
C'est-à-dire que tout le monde savait, beaucoup d'entreprises, parce que il s'agit pas aujourd'hui de faire une moralisation à propos de cette affaire-là. Tout le monde, il y a toujours une part immonde dans toute commercialisation, en tout cas tout rapport commercial avec les États. Il y a une partie qu'on négocie sous la table, etc. Et tout le monde le savait. Hein, tout le monde qui quelqu'un qui est bien informé sait très très bien ce qui se passe.
Oui.
Donc il y a une partie visible et une partie invisible.
Alors, Hichem Benaïch, alors, on sait que de plus en plus, de banques, notamment des banques suisses, ou de certains paradis fiscaux qui coopèrent de plus en plus dans le système de contrôle, je dirais, des fonds qui sont considérés comme des fonds, disons, discrets. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que les banques chinoises font partie, je dirais, de cette bonne coopération internationale?
En tout cas, je peux vous dire une chose. Moi, quand j'étais aux États-Unis et en Chine, il y a les Américains, parce qu'ils ont compris que les 900 milliards de bons de trésor achetés par les Chinois aux États-Unis et on parle d'un chiffre qui est le double ou le triple parce que on a comptabilisé uniquement ce qu'a fait la banque centrale chinoise.
Oui.
C'est-à-dire que les Américains ont compris une chose, ils sont entrés dans ce G2. C'est-à-dire que ce tête-à-tête Chine-États-Unis, ils sont entrés depuis plusieurs années en rapport de force pour que les Américains puissent ouvrir le système financier chinois par la, ce qu'on appelle la haute finance, pour savoir comment l'argent chinois circule.
Oui.
Et tout le triangle des Bermudes chinois, et c'est que les Chinois n'autorisent pas cette possibilité-là pour pouvoir ne pas avoir cette capacité.
D'accord.
De pouvoir entrer dans les comptes et savoir ce qui se passe en termes de circulation de l'argent. Et la haute finance, c'est un enjeu majeur. Les Américains ont exercé depuis des années des pressions pour pouvoir accéder. Et je crois que la négociation, le deal, parce qu'aujourd'hui, le pays, les deux pays sont tellement dans une interdépendance, pour ne pas dire surtout une dépendance, que ça va finir par se faire. Parce que je pense que ce qu'on oublie, la haute finance est le nerf de la guerre dans cette affaire-là.
Bien sûr, bien sûr.
C'est-à-dire qu'on pénètre au cœur des transactions et comment l'argent circule d'une place à l'autre, comment les choses se font. Et ça, c'est vraiment, ça procède d'une certaine souveraineté.
Le grand débat, analyse, décryptage, coup de gueule, commentaire. Le grand débat sur Africa numéro 1.
Hichem Benaïch, rédacteur en chef de New African, Yves Kouya Maïzo, consultant international, Dominique Concourt, débatteur polémiste sociétaire du Grand Débat, restez avec nous. Nous allons aborder tout de suite un sujet qui n'est pas très éloigné d'ailleurs de celui dont nous parlons depuis le début de cette émission. Comme vous le savez, certainement, je ne vous apprends rien, surtout pas à vous Yves Kouya Maïzo. Il paraît que l'Afrique devient une destination émergente des investissements financiers. Et c'est le cabinet Ernst & Young qui vient de publier une enquête sur l'attractivité du continent africain en matière d'investissement direct étranger. Une étude qui révèle que l'Afrique séduit de plus en plus les investisseurs. Et nous en parlons, nous sommes en ligne avec Monsieur Joseph Pagop Noupoué, qui est avocat associé au cabinet Ernst & Young, en charge du département juridique et fiscal pour l'Afrique subsaharienne. Monsieur Noupoué, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, selon cette étude de votre cabinet, au cours de la dernière décennie, l'Afrique est passée de 338 nouveaux projets en 2003 à 633 en 2010, soit une augmentation de près de 87% en 7 ans. Alors, quels sont les atouts de l'Afrique aujourd'hui pour la rendre attractive aux financiers dans ce contexte de récession mondiale?
Mais les atouts de l'Afrique sont nombreux. Déjà, une population importante, comme notre étude en fait le confirme, il y a les perspectives d'évolution de la population africaine démontrent qu'on passera du milliard d'habitants aujourd'hui à 2 milliards en 2050.
Oui.
Il y a les atouts qu'on présente d'habitude comme pouvant être des éléments de faiblesse du continent qui sont le fait que le continent est riche, que les ressources minérales sont nombreuses, et le fait qu'il y a aujourd'hui une amélioration claire des principes de gouvernance dans nombre de pays avec des efforts en matière de transparence laisse penser qu'une grande partie des revenus de l'exploitation de ces ressources minérales pourra être réinvestie rapidement dans les infrastructures et dans le développement des autres pans de l'économie africaine. Donc tout cela mis ensemble pour des investisseurs, ça crée un faisceau d'éléments en fait qui sont très favorables pour permettre à l'investisseur d'avoir l'assurance, d'avoir le retour espéré et assez rapidement.
Est-ce qu'il n'y a pas un excès d'optimisme, parce que les nouveaux projets prévus à l'horizon 2015 concernent surtout l'Afrique du Nord, c'est-à-dire la Tunisie ou encore le Maroc? Ça veut dire que tous les pays ne présentent pas le même degré d'attractivité.
Mais il est évident que tous les pays ne présentent pas le même degré d'attractivité. Chaque pays a ses atouts, a ses faiblesses, et c'est sûr que effectivement les pays d'Afrique du Nord, la Tunisie, le Maroc, grâce à leur proximité avec l'Europe, grâce à leur positionnement sur des économies plus liées au tourisme, aux activités de loisirs, effectivement, ou encore aux activités de délocalisation dans le secteur, notamment des services informatiques ou de la téléphonie avec les call centers en Tunisie, par exemple, offrent des possibilités que d'autres pays d'Afrique subsaharienne ou d'autres pays plus éloignés du continent européen ne peuvent pas offrir. Mais en fait, ces pays d'Afrique subsaharienne ont également des atouts. Et en fait, on s'aperçoit que les besoins, notamment dans le secteur de la téléphonie ou de la grande distribution, sont identiques ici et là. Et très clairement, c'est assez reparti.
D'accord. Alors, il faut dire que ce sont de plus en plus les pays émergents, comme on dit, les BRICS, qui investissent en Afrique, plus 13% chaque année. Alors, comment vous interprétez cette coopération Sud-Sud ?
C'est un élément très positif. C'est des éléments que nous avions déjà constatés dans nos différents bureaux. Il faut savoir que notre réseau, le réseau enseignant, est présent dans grande majorité des pays africains. Et nous avions au fil du temps vu arriver des investisseurs effectivement originaires de Chine, d'Inde, du Brésil, de Russie, mais également des investisseurs intra-africains, donc d'Afrique du Nord qui investissent en Afrique subsaharienne, ou d'Afrique australe qui investissent en particulier dans le secteur minier, dans les sociétés de service, dans le secteur du service
de télécommunication,
voilà, tout à fait, de télécommunications avec MTN et autres. Donc il y a une variété de sourcing des investissements qui est un élément très positif et qui finalement, j'allais dire, met un peu les investisseurs européens ou l'Europe et les États-Unis un peu face à une responsabilité qui doit finalement être plus grande et face à l'impératif d'être plus pragmatique et de constater que les sources de marge de croissance se situent essentiellement en Afrique.
Mais alors qu'on voit, je dis, à cette coopération Sud-Sud se renforcer, votre étude montre que ce sont les Européens qui sont les plus sceptiques finalement en ce qui concerne l'opportunité d'investir sur le continent. C'est intéressant.
Oui, parce que c'est la réalité, là, le fait, et puis quand on vit en Europe, on se rend compte que la vision de l'Afrique pour beaucoup d'Européens est encore, en fait, j'allais dire, un peu mélangée. Il y a toujours un amalgame de l'exigence politique, de l'attente que beaucoup d'États européens ayant été présents pendant de longues décennies en Afrique en fait avaient de l'espoir qu'ils avaient de voir les pays africains indépendants évoluer, qui parfois est un peu déçu, et donc cette analyse, la vision sous ce prisme parfois influence la vision purement économique que d'autres n'ont pas, que des investisseurs indiens ou chinois, finalement, quand on leur présente l'état de certains pays, les risques qu'on identifie, finalement se disent, mais nous aussi on connaît les risques similaires et on arrive à les gérer, pourquoi on ne les gérerait pas en Afrique. Oui, donc finalement ça permet de constater que tôt ou tard les Européens se rendront compte que soit ils se remettent dans le rang, soit finalement, comme on a pu le voir avec les investissements venant de d'autres pays émergents, ces pays partiront d'Afrique pour remonter en Europe.
Joseph Bakop, vous pouvez rester avec nous. Vous êtes avocat associé chez Ernst & Young. On va demander les commentaires de nos invités. Yves Kouamaïso.
Écoutez, je confirme tout à fait. Moi, en tant qu'économiste, et pas mes derniers rapports, c'est dans la même tendance. Par contre, je vais mettre un peu de bémol dans le sens où quand même, quand on compare avec l'Asie ou l'Amérique latine, cette montée en phase des investissements n'est pas aussi extraordinaire sur le plan des montants généraux. Vous avez parlé de projets, vous avez parlé en termes de millions, vous allez voir que c'est quand même autre chose. Et les types de projets, c'est pas des multinationales, des gros trucs, c'est quand même un peu plus petit. Troisième chose, l'emploi. Et malheureusement, c'est ces investissements qui génèrent d'ailleurs effectivement de l'argent, mais ne créent pas autant d'emplois qu'on pourrait le penser. Quatrième problème, ça va toujours dans les domaines des minerais, la non-transformation, les matières premières non transformées. Bon, bien sûr, ça rapporte de l'argent. Du coup, ça crée deux Afriques, et les Afriques qui ont des ressources à offrir et celles qui en ont moins. Bon, c'est vrai que l'Afrique du Nord commence un peu à faire venir un tout petit peu d'industrie, la Chine aussi un tout petit peu, mais ça reste relativement limité. C'est pourquoi nous rentrons pas, il faut le dire le mot, dans l'industrialisation, dans la capacité productive. Donc voilà le premier point que je dirais là-dessus. La deuxième, qui est beaucoup plus subtile, qui revient le point qu'on a dit tout à l'heure, c'est quand vous parlez de haute finance et autres, là, faites attention, il y a dedans aussi tout le volet spéculation. Et donc ces fonds spéculatifs, qui d'ailleurs, l'Asie s'est très bien protégée contre ça, le Fonds monétaire asiatique, en fait, a bien structuré cette histoire, ce qui fait que justement, on n'arrive plus à créer en gros des spéculations qui déstabilisent les États. Et ce genre de choses est relativement encore possible compte tenu des monnaies que nous utilisons en Afrique en général. Donc
on doit lier nécessairement les deux pour que ces investissements aujourd'hui soient vraiment pérennes. Mmh. Et le dernier point qui est lié à tout ceci, il faut faire que derrière un investissement, il y a quand même toute l'organisation de l'emploi, du management. Bah, écoutez, c'est d'enseigne. Et donc mon problème, c'est quoi? On ne peut pas continuer aussi à faire beaucoup d'argent et continuer à baisser les salaires et donc le pouvoir d'achat des populations africaines vers le bas. Oui. La course vers le bas, mais c'est la catastrophe. Vous savez, Ford, le plus grand capitaliste, il a doublé les salaires par deux. Par contre, il a dit à ses ouvriers, allez acheter ma voiture, et tout le système productif s'est mis en route. Et alors qu'en Afrique, c'est exactement le contraire. Alors, ces investisseurs, il va falloir qu'on mette des cadres éthiques en place et faire en sorte que ces investisseurs étrangers qui viennent de plus en plus, parce qu'ils sont beaucoup plus dynamiques, puissent fonctionner. Et le tout dernier point, sur l'Europe en particulier, notamment les investisseurs européens, il faut dire la vérité, il faut dire un chat, c'est un chat. Beaucoup d'investisseurs européens, pour ne pas dire français, ne sont pas compétitifs sur le marché africain. Oui, c'est dit gentiment, diplomatiquement tout à l'heure.
Cette explication,
le problème, c'est ça. C'est-à-dire qu'en face d'un Chinois dynamique qui s'adapte, qui est agile, écoutez, les gars, ils fuient.
C'est une explication, oui. Restez avec Louis Vekouer Maïso et Hichem Benaïs. On revient à vous dans quelques instants. Joseph, nous pouvez rester avec nous, s'il vous plaît. On vous garde encore quelques minutes avec nous. On marque une pause et on revient tout de suite. Restez avec nous.
Africa. Le grand débat sur Africa numéro 1 avec Francis Laloupo.
Africa numéro 1.
Merci d'écouter Africa numéro 1 dans ce grand débat. Hichem Benaïch, rédacteur en chef des New African, Yves Ekwe, Amaïso, consultant international, et avec nous au téléphone pour parler de l'attractivité nouvelle, en tout cas constatée, de l'Afrique pour les investisseurs financiers. Et Joseph Pagop, Loupoué, avocat associé chez Ernst & Young. Dominique Okou, un commentaire, s'il vous plaît.
Oui, d'abord, moi, je salue la qualité de tout ce débat qui est très important. Mais ce qu'il faut quand même signaler, c'est... parlons de la Chine. Quand on parle de la Chine, je crois qu'il y a lieu de préciser que de plus en plus, en fait, on fait une sorte de confusion de principe. Parce qu'en fait, il y a l'État chinois qui souvent a des actions qui sont des actions plus visibles, plus institutionnelles. Mais il y a l'entrepreneur chinois. Et avec des mécanismes très informels, en fait, qui dépassent beaucoup l'Occident. Et des mécanismes comme des mécanismes tontiniers, comme de tout un mode en fait de circulation de l'argent qui installe en fait à la limite qui même en défi cette fameuse haute finance et qui fait qu'en fait et je suis d'accord avec Yves que de plus en plus les Occidentaux deviennent des nains en termes d'investissement dans des pays dits émergents mais particulièrement dans des pays comme l'Afrique. Et il y a David Appelfield de Financial Times qui disait que il devient plus intéressant d'être africain actuellement qu'être américain. Et au début, ça m'avait paru un peu provocateur, mais c'est vrai que bon, après j'ai eu un dîner avec lui et il m'a montré qu'en fait derrière cette sorte de catastrophe en fait l'état catastrophique que l'on présente l'Afrique qui n'est au fond que un problème de possession de pouvoir. Le problème de l'Afrique ce n'est qu'un problème de pouvoir, mais à l'intérieur il y a toute une activité qui existe et qui s'exerce. Peut-être c'est vrai qu'il faudrait arriver à mettre là je suis d'accord avec Yves qu'il faut mettre un cadre qui fasse qu'on puisse passer de cette sorte d'économie de cueillette. En fait, on va là en Afrique pour les minerais, on va à Kinshasa, la zone démocratique, pour prendre les minerais, à une exigence de transformation, à une exigence de participation. Faire en sorte que l'homme africain soit entraîné par cette sorte de concurrence en fait qui se joue en Afrique. Et moi, mon sentiment, c'est que en fait, c'est actuellement en Afrique, c'est le continent où il y a le plus de conflits, mais qui ne sont plus des conflits politiques, qui sont plutôt des conflits économiques, où vraiment les entreprises vont se battre et de plus en plus vraiment se battre. Mais j'ai l'impression qu'on peut arriver, si on arrive à bien gérer cela, à faire comme un déplacement du centre d'attractivité du monde vers l'Afrique.
Oui.
Et je crois que lorsque nous aurons réussi cela, peut-être que le problème politique, on le prendra un peu de manière, il deviendra un peu mineur, en fait, tel qu'il se manifeste, pour que l'économie devienne véritablement le lieu de notre investissement, le lieu de notre réflexion. Et moi, ça me paraît un défi qu'il nous faut relever. Et je suis content que les cabinets d'avocats, comme Jung, comme Kunku, ainsi de suite, on commence à entrer vraiment dans cette logique.
Comme le vôtre aussi, d'ailleurs, votre cabinet.
Bien entendu, oui, c'est mon travail.
On va écouter Hichem Benaïch. Alors, Hichem Benaïch, on parle beaucoup d'investissements étrangers. À chaque fois, c'est annoncé comme une bonne nouvelle. Mais on évoque très peu, on se penche très peu sur la capacité endogène de l'Afrique de produire de la richesse.
elle est capable. D'abord, je voudrais vraiment dire, effectivement, l'Afrique, c'est une nouvelle frontière. Moi, je pense que il y a un potentiel, il y a une force intérieure très forte. Mais je pense que c'est vrai. Aujourd'hui, il vaut mieux être africain peut-être qu'américain, mais à condition que l'Africain ait une conscience aiguë de ses intérêts. Je crois que il y a une maturité essentielle de savoir s'autoprogrammer pour pouvoir être demain sur des secteurs de pointe. Je crois que la génération spontanée n'existe pas, et oui, je pense que quand on voit le modèle chinois, coréen, japonais bien avant, je crois qu'il y a une volonté de se programmer pour pouvoir être à un moment donné parmi les nations qui comptent. L'autre aspect qu'il faut aussi dont il faut tenir compte, c'est que aujourd'hui l'Afrique dans la phase actuelle, il y a aujourd'hui une inversion des cycles, c'est-à-dire que c'est vraiment un paradoxe, c'est-à-dire que les pays émergents sont devenus des pays en croissance. Et les pays développés sont déficitaires dans une phase absolument d'atonie et de récession. Ça, c'est un cas de figure absolument nouveau et qui montre que les acteurs sont en train de... Il y a une redistribution des cartes et que la planète est en train de changer de figure, c'est parce que les rapports de force sont en train de changer. L'autre aspect, moi, je suis en train de préparer un dossier Inde-Afrique, Brésil-Afrique. Le Brésil est très peu présent, malheureusement, alors que le Brésil a, en termes de comparaison, pas mal de choses avec l'Afrique, et a des moyens considérables. Je crois que ils vont se rendre compte, les Brésiliens, que les affinités sont encore plus fortes, et surtout...
Pourtant, Lula s'est dépensé sans compter, hein, je veux dire que pour justement amener le Brésil vers l'Afrique.
Oui, mais ça va prendre un peu de temps, mais les Brésiliens vont finir petit à petit par se rendre compte qu'ils sont beaucoup plus utiles que d'autres peuples par une affinité culturelle, ethnique et autre. Je pense que le Brésil est vraiment très très un pays très africain. Pour l'Inde, ce sont des secteurs cantonnés parce qu'ils n'ont pas cette force de déploiement des Chinois. Les Chinois sont partout en Afrique, alors que les Indiens et les Brésiliens sont vraiment encore dans des... Ils sont inscrits dans des insularités et dans des créneaux très particuliers. L'Afrique aujourd'hui vit... c'est pour ça qu'on dit ce potentiel est énorme. Il y a une classe moyenne qui est en train d'augmenter, et c'est pour ça qu'elle attire tous les regards, parce que ce soit on voit encore en Afrique comme un continent de consommation. C'est-à-dire que les consommateurs, le défi africain est de pouvoir se rendre compte que le statut de consommateur ne doit pas rester longtemps. Il faut que les Africains deviennent des acteurs de leur propre histoire et des acteurs économiques surtout.
Les acteurs de leur propre économie, oui. Joseph, nous pouvez, s'il vous plaît ? Vous êtes resté avec nous ? Oui, vous êtes là ?
Oui.
Alors, quand votre cabinet fera-t-il une étude sur les capacités endogènes de production de richesses des Africains ?
J'avais dit, le fond est déjà un peu couvert dans le rapport, hein, qu'on démontre que les investissements infra-africains, intra-africains évoluent à d'environ 13% par an depuis 3-4 ans. Ça démontre que, les États africains investissant en Afrique, ou les investisseurs africains, que ce soit du privé ou du public d'ailleurs, hein, investissant en Afrique, sont de plus en plus nombreux et ont définitivement pris conscience de l'existence de marchés autour d'eux. Et ne vont plus simplement rechercher, des pôles d'investissement en Occident ou ailleurs, en dehors d'Afrique. Donc, j'aimerais également revenir sur peut-être deux trois points qui ont été évoqués tout à l'instant.
Allez-y.
Et c'est en fait sur lesquels nos travaux apportent peut-être un début de réponse. Premièrement, en ce qui concerne la création d'emplois.
Oui.
Nous avons pu, à l'occasion de cette étude, constater que les investissements directs étrangers en Afrique, au cours de la dernière décennie, en fait, ont créé environ 1 600 000 emplois directs. Nous avons également, sur la base des projections d'investissement qui seront faites d'ici 2015, oui. Pu estimer que 350 000 emplois seront créés directement, j'allais dire, à partir des investissements réalisés, sachant que lorsque les investissements sont réalisés, ça génère également une économie parallèle, une économie, j'allais dire, autour de l'investissement principal, oui. Qui également crée des emplois. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en fait, il a été évoqué tout à l'heure, l'impératif que beaucoup d'États africains connaissent aujourd'hui de pouvoir créer une capacité de sourcing africaine.
Oui.
Donc que les investissements africains et étrangers ne soient plus simplement dans les ressources minérales, qu'on puisse créer une vraie économie autour des investissements principaux. Mm-hmm. Et c'est déjà pris en compte dans nombre de pays africains, et en particulier, je citerai le cas du Nigeria. Vous êtes sans aucun doute au courant de la réforme essentielle du régime des hydrocarbures au Nigeria qui a lieu en ce moment. Et un des piliers de cette réforme est l'exigence de ce qu'on appelle là-bas le local content, qui est désormais de considérer qu'un investissement étranger dans le secteur des hydrocarbures au Nigeria ne pourra plus faire appel à de la sous-traitance ou à, en fait, des services de source non nigérian que dans la limite, en réalité, de l'hypothèse où ces services ne seraient pas disponibles. D'accord. Au Nigeria. Et simplement pendant 3 ans. Ce qui signifie qu'un investisseur étranger qui investit au Nigeria, dès que la loi sera adoptée, et qui considère par exemple qu'il a besoin de services de forage ou de services de suivi de puits, de pétrolier, ainsi de suite, et qui se dit, ben, très bien, nous n'avons pas cette compétence disponible au Nigeria, il aura désormais 3 ans pour mettre en place des programmes d'éducation, des programmes de formation, de sorte et encourager des Nigérians à créer des sociétés dans ce secteur, de sorte qu'au bout de 3 ans, ils puissent avoir ce service disponible au Nigeria, et en tout cas, il ne sera plus autorisé à importer ce service de l'extérieur du Nigeria. Donc, c'est des éléments qui sont fondamentaux et qui révèlent la prise en compte, en fait, par les États africains, de ces impératifs qu'il faut pour permettre à ces économies de progresser.
D'accord.
Le dernier point, peut-être rapidement, effectivement, concerne aussi l'actionnariat national minimum qui est de plus en plus introduit dans un certain nombre de pays. Ça a été le cas de l'Algérie, qui n'était plus simplement un actionnaire minimum, mais même majoritaire, qui est en fait aussi révélateur du fait que les États africains veulent une vraie implication des économies locales, des investisseurs locaux dans les investissements qui sont réalisés.
Joseph Pagop Loupoué, avocat associé chez Ernst & Young, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce grand débat et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée plutôt. À bientôt.
Merci beaucoup, merci bien. Merci. Et à bientôt, j'espère.
Merci, à bientôt.
Le grand débat avec Francis Laloupo.
Suite du grand débat, nous allons écouter quelqu'un qui a, depuis tout à l'heure, suivi l'émission, écouté très patiemment, c'est un auditeur qui nous appelle souvent, Alassane, qui va nous faire un commentaire général. Monsieur Alassane, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Francis.
Alors, vous avez écouté tout ça, donc vous avez forcément un commentaire, disons...
J'ai écouté ça avec beaucoup d'attention, surtout les points qui concernent notre Afrique. Vraiment, c'est quelque chose vraiment qui nous touche. Donc, moi, je voulais dire seulement quelle Afrique dont on parle d'investissement et tout quoi. Ça, moi, je ne connais pas. Moi, je ne vois pas cette Afrique. À partir du moment où je vois beaucoup de pays africains, quand vous regardez les personnes, la personne qui dirige un pays et les personnes qui dirigent notre Afrique, il a une domination pour son parti, pour sa personne, la domination économique par la famille du président, la domination sociale par l'ethnie du président, la domination médiatique par les systèmes mis en place depuis 50 ans et qui ne change pas. Si on fait pas attention, ça ne changera jamais.
Oui.
Ça, j'en suis sûr. Parce que je vais vous donner vraiment des exemples.
Donnez juste un exemple.
Voilà, quand on parle des investissements et tout ça, vous avez parlé de la Chine, vos invités, ils ont raison. Avec juste raison. La Chine, il y a M. Modigna, un Sénégalais qui a fait un livre sur le système de la Chine avec la complicité du gouvernement de Blewad.
Modigna,
on a perdu 5 milliards. On a perdu 5 milliards, c'est-à-dire qu'il y avait des contrôles des impôts, donc la Cour des comptes, qui avait relevé vraiment beaucoup de problèmes de leur part des Chinois, des entreprises chinoises. Et il a fait la Cour des comptes, donc ils ont taxé 5 milliards. C'est 5 milliards jusqu'à présent. Et les Chinois ont juste amené un papier, quoi, ils paient un prix. Jusqu'à maintenant, cet argent est perdu dans la nature. Je vais vous parler aussi de Moussa Baratal, ingénieur sénégalais, qui avait racheté une entreprise française qui s'appelait... j'ai oublié le nom. Voilà. Est-ce que c'est...
Oui.
Notre gouvernement sénégal a dit simplement, plus précisément, Moussa Karim Wade, le fils d'Ablabad, tant que je suis là, vous n'aurez pas un contrat. Cette entreprise a coulé.
Oui.
Cette entreprise a coulé. Donc, beaucoup d'entrepreneurs sénégalais et même africains n'ont pas de marché. Ce sont des Chinois, des Indiens, et on ne comprend pourquoi. Je veux vous parler encore de nous, les Sénégalais diaspora. Vous, Francis, quand vous partez au Sénégal, vous prenez votre billet, vous avez les taxes. Les taxes que le Sénégal a imposées avec autoritarisme. Et ces taxes, on ne sait pas ça sert à quoi et c'est pour qui. C'est-à-dire 2-7 ans. Un spécial a chiffré ça, plus de centaines de milliards, donc 300 et quelques milliards. Donc on peut multiplier vraiment des exemples. Tant qu'on a à la tête d'un pays, un homme, sa famille, sa constitution, son armée, sa police, sa population, ça n'ira nulle part.
On a compris, Alassane, on a bien compris.
Dernière chose.
On arrive.
Moi, je suis content vraiment de vraiment l'entendre. Et je l'écoute vraiment avec aussi votre invité qui est là-bas, avec Dominique. Vraiment, je les aime bien. Je pose la question. Quelle est la raison d'être de l'Union africaine?
Écoutez, on a posé la question il y a quelques jours dans cette émission.
Il faut faire comme la CEDAO qui essaye quand même de dire si cette élection n'est pas bien, qui essaye d'être quand même d'organiser la sous-région africaine, tant bien que mal.
La CEDEAO, donc l'institution sous-régionale plus efficace que l'Union africaine. C'était votre conclusion, Alassane. Alassane, merci beaucoup. On revient dans quelques instants, juste après cette pause.
Africa. Le grand débat sur Africa numéro 1 avec Francis Laloupo.
Africa numéro 1.
Suite et fin du grand débat sur la radio africaine. Dans cette émission, nous avons accueilli, ils sont avec nous, Hichem Benaïs, rédacteur en chef du magazine New African, le professeur Yves Ekwe-Amaizo depuis Vienne, qui est avec nous aimablement depuis Vienne, consultant international expert auprès de l'Union africaine, et dans ce studio, mon complice sociétaire de l'émission, débatteur polémiste solitaire aujourd'hui, Dominique Okunku, avocat et pasteur. À côté, il est avec nous aussi, il faut bien le citer, il faut pas le citer seulement à la fin des émissions, c'est Jérôme Giliberto qui réalise l'émission, qui est avec nous, comme ça on est tous solidaires, une bonne équipe, et ça c'est le grand débat. Alors Yves Ekwe-Amaizo, Hichem Benaïch, c'est le nom venu des conclusions sur ce serait bien d'avoir de votre part une conclusion synthétique à la fois sur ce système du gel des avoirs des chefs d'État et aussi c'est l'attractivité constatée de l'Afrique pour les investisseurs étrangers dont nous avons parlé. Yves Ekwe-Amaizo, c'est vous qui allez vous y coller à cet exercice périlleux.
Non, il n'est pas très difficile, il est même relativement simple. Il faut demander des comptes. Il faut demander des comptes aux États. Alors écoutez bien, quand on parle d'ingérence de l'État dans les affaires économiques et que des entreprises coulent comme on vient de l'entendre au Sénégal, c'est qu'on n'a pas demandé des comptes. Quand l'État ne paye pas sa dette intérieure à des entreprises sous-traitantes ou pas au Sénégal ou au Togo ou ailleurs, et que on ne dit rien que le système légal ne marche pas, c'est que l'État ne rend pas des comptes.
Oui.
Quand les contrats entre la Chine et puis l'Afrique, que ce soit des individus, des États publics, privés ou publics, et que personne ne dit rien et qu'on n'a pas préparé cela, ça veut dire aussi que à ce moment-là, on n'a pas fait ce que je vous dis, c'est-à-dire on n'a pas rendu des comptes.
C'est
il faudrait qu'on puisse contrôler comment ces contrats sont faits. Continuons sur le niveau d'investissement. Alors tout le monde est content que oui, il y a eu un bon rapport qui dit que les investissements vont mieux. Mais combien d'argent que ces multinationales font sur le sol africain, qui n'est pas réinvesti en Afrique et qui ne va pas dans l'industrie ou la capacité productive pour créer des valeurs et des chaînes de valeur. Il a fallu que le Nigeria prenne conscience de cela et impose la chaîne de valeur de l'igname et du manioc pour pouvoir les forcer à faire du gari localement. Sinon, ça vient encore d'ailleurs. Je continue deux derniers points rapidement et je vais être beaucoup plus positif. C'est que nous avons la capacité d'anticiper. Oui. Et nous n'anticipons absolument pas. Ça veut dire quoi? Qu'une université dans laquelle nous avons une agglomération d'expertise locale, pourquoi nous les mettons pas ensemble et nous proposons cela à des multinationales pour leur dire, écoutez, vous êtes très gentils, mais écoutez, voici le type d'expertise que nous dont nous disposons. Oui. Écoutez, voilà ce que vous recherchez. Je ne vois pas pourquoi les deux dernières années, nous pouvons pas orienter les étudiants vers cette expertise-là. Puisqu'à partir du moment où vous avez 3-4 années d'université en sciences ou dans les domaines de sciences économiques ou sciences sociales, il n'y a pas de moyen que vous ne vous adaptiez pas. Vous savez qu'en Allemagne, en Autriche, beaucoup de gens qui viennent ici avec 3 années ou 4 années d'université, on les réadapte, qu'ils viennent de philosophie ou qui vient de mathématiques. Alors le tout dernier point qui touche à la notion d'agglomération des compétences, et c'est très important, c'est que nous ne travaillons pas ensemble. Oui. L'Union africaine, mais est-ce qu'elle travaille pour les chefs d'État ou elle travaille pour le peuple africain? C'est ça le vrai problème. Pourquoi elle ne veut pas mettre des sources alternatives de financement en mettant une taxe sur ces investisseurs étrangers justement qui viennent avec de la fraude, qui viennent avec des choses qui ne sont pas éthiques? Et à ce moment-là, on peut payer. La CDAO l'a fait et la CDAO tourne relativement bien parce qu'elle a un budget aujourd'hui. Voilà. Si on continue à dépendre des budgets de l'extérieur, notamment de l'Union européenne, comment voulez-vous que nos décisions puissent intéresser l'Afrique? Comment voulez-vous créer un fonds monétaire africain pour d'abord défendre le budget africain, s'il faut toujours aller voir d'autres qui ont des conditions, des conditionnalités qui ne sont pas les nôtres? C'est alors ça. Pour finir, non, nous avons les ressources, mais on n'écoute pas la diaspora, on n'écoute pas les intellectuels, disons ceux qui ne travaillent pas pour les États en question, et on n'écoute pas tout simplement le groupe, parce que regardez, en moins de 2 heures, vous avez réussi à montrer au monde comment des expertises diversifiées, de juridiques, des avocats, des journalistes peuvent montrer que nous avons une expertise à donner, à vendre, et encore faut-il que le payer. Et le tout dernier point, il faut le payer, le pouvoir d'achat. On ne peut pas faire travailler des gens et les payer 3, 4, 5 fois, 10 fois moins que n'importe quelle personne avec qui on était dans les mêmes universités, on est même sorti majeur de ces universités. Merci.
Merci beaucoup Yves Kouamaïso pour cette lumineuse conclusion. Hicham Benaïch.
Oui. Ben écoutez, en tout cas, moi je conclue sur vraiment un trait de type. C'est-à-dire qu'un triptyque, excusez-moi, c'est le droit, développement et règles du jeu. Je pense que l'Afrique véritablement a besoin d'intégrer tous ces éléments pour ne pas permettre ce gaspillage, cette espèce d'ignorance des moyens de l'Afrique et cette patrimonialisation en quelque sorte, c'est-à-dire que cette captation de la richesse par quelques clans ou quelques familles. Et le défi africain est de se sortir de cela, parce que encore une fois, le networking, cette force de l'Afrique, des compétences existent partout. À l'heure de la mondialisation, on le voit, on le constate. Je pense que l'Afrique, malheureusement, c'est le processus qui est très très lent. Y a des éléments intérieurs, mais les transformations ne sont pas vraiment... en tout cas, ils sont des processus très très longs et très très lents, et c'est cela qui pose peut-être problème avec l'accélération des besoins africains.
Yves Ekoué, mais encore, je vous rattrape un peu, Yves Ekoué, vous êtes là? Vous êtes au courant, non, forcément au courant, le 21e Forum économique mondial sur l'Afrique qui s'ouvre donc aujourd'hui au Cap en Afrique du Sud avec un certain nombre de chefs d'État, d'Iton, de gouvernement qui devaient participer à cette réunion. 900 influents dirigeants africains internationaux sont attendus, venus de 60 pays. On parle d'un record pour ce Forum économique pour l'Afrique. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette réunion?
Mais on a un gros problème avec nos forums économiques. C'est que ces chefs d'État dont vous dites qu'ils sont justement présents, alors, je veux dire, il faut louer que ça se passe en Afrique, c'est déjà une bonne chose. Mais regardez dans le portefeuille, dans leur sac, qu'est-ce qu'ils apportent? Ils apportent des dossiers, quand vous regardez en détail, ils viennent vendre l'Afrique en saucisson. Ils viennent vendre l'Afrique en petites pièces, m'explique. Ils viennent vous dire, venez prendre un sol, produisez dessus des céréales et allez mettre ça pour financer vos voitures qui sont de plus en plus vertes à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va produire de quoi manger pour aller les mettre dans des voitures alors que les populations meurent de faim. Mais, deuxième chose, ils vont venir prendre des matières premières, venez investir parce qu'on découvre tous les jours avec les satellites des nouvelles matières premières. Mais ils oublient de leur dire qu'il faut transformer et créer de l'emploi. Trois, ils disent que écoutez, venez et vous pouvez les mettre dehors, n'importe quel salarié, à n'importe quelle condition. Nous ne disons rien. L'impunité totale, le silence coupable de ces chefs d'État. Voilà pourquoi ce forum économique ne nous intéresse pas, un certain d'entre nous de la diaspora. Voilà le gros problème que nous avons. Ces gens ne nous représentent pas.
Donc vous n'irez pas au Cap, mon cher Yves Colarizo. Bon, alors on va écouter rapidement un auditeur, ensuite Dominique, ce sera à vous. Monsieur Tom qui est là, est-ce qu'il est là, monsieur?
Oui,
Tom. Bonjour,
oui.
Monsieur Tom.
L'ami Laloupo, merci. Bon, je suis, mais j'adhère totalement à ce que viennent de dire tous les frères. Il y a une chose qui me chagrine, hein, c'est que vu ce qu'il vient de dire, le tout dernier frère qui vient de parler, ce qu'il vient de dire, c'est décevant.
Pourquoi?
Mais vous-même, sachant que maintenant les États-Unis et toute l'Europe a peur, ont tous peur des marchés qui commencent à leur échapper,
oui.
Alors ils mettent toute l'Afrique à sac, à coups de fusil, à coups de tout ce que vous voulez. Nous, la faute nous revient. Pourquoi? Nous, surtout, nos journalistes. Permettez-moi de dire ça, parce que une fois que l'occidental brandit son fusil et nous fait savoir qu'il a tué un tel, ou bien il attrape un tel, parce qu'il est comme ça, des gens vont être jugés tout récemment, parce qu'il y a ci, il y a ça, et on leur attribue des crimes, des trucs, alors que eux-mêmes ils assassinent quelqu'un qui n'a même pas un lance-pierre, il n'a pas de couteau, il n'a rien, on tire dessus. Rappelez-vous ce qui se passe là, en Côte d'Ivoire et ailleurs, c'est tous nos intellectuels que l'Occident et l'Amérique sont en train de tuer. Donc, plus l'Afrique perd ses dirigeants, perd leur grosse tête, on a beau les faire former, ça ne servira à rien, puisque c'est comme une dame qui fait son enfant aujourd'hui, et va le nourrir pendant des années, et l'autre il prend une minute pour le tuer.
Tom.
Bon, donc j'ai terminé.
On arrive à la fin de l'émission, donc dites-moi juste... Dites-moi en 20 secondes une conclusion positive.
Voilà. Donc, ce que je dis, c'est que l'Italien appelle ça cocu et battu.
Oui.
Cornuto et bastonato.
Mais ça, c'est pas très positif. Hein, bon.
Voilà. Donc, moi, je suis très touché de ce qu'ils viennent de dire. Ça veut dire que l'Afrique n'est pas aussi pauvre que les gens prétendent.
Ça, c'est bien.
J'ai toujours dit que l'Afrique est riche, donc vive nos intellectuels et que les gens arrêtent de les assassiner.
Merci beaucoup, mon cher Tom. Dominique Ogou, écoutez, réalisez la prouesse d'une conclusion rapide et synthétique en une minute.
D'abord, dire que c'est la meilleure émission à laquelle j'ai pu participer.
Ah.
Et sans doute... Et
pourtant, vous en avez fait depuis plusieurs mois.
Je sais bien. Et je crois que vous voyez la passion a été orientée autrement. Et peut-être c'est peut-être le défi qu'il faut lancer. Le politique du siècle qui vient doit être ce politique qui s'intéresse à l'économie. Doit être ce politique qui regarde l'Afrique comme un véritable champ de richesse et qu'il faudrait arriver maintenant à défendre. Dans mon livre, quand je concluais dans Monnaie africaine, je disais que il faut que l'Afrique arrive à défendre ses intérêts. Et je suis content parce que tout ce qu'on a dit tout au long, ça montre bien que l'Afrique doit gérer ses propres intérêts. Et je crois qu'il faudrait donc, un, qu'on soit conscient que nous avons vraiment des intérêts à défendre et qu'il faut les défendre en respectant les partenaires en face, occidentaux, chinois, ainsi de suite. Mais il faut avoir des intérêts à défendre. Il ne faut plus vendre l'Afrique, c'est ça. Et peut-être aussi, dans cette notion de sourcing, en fait, arriver à voir que nous sommes, il n'y a même pas à porter cela comme une culpabilité. Nous avons maintenant les moyens de pouvoir créer une économie, une vraie économie africaine. Et peut-être y arriver justement comme fait le local containment de Nigeria, arriver à imposer des règles de fonctionnement de nos systèmes de partenariat avec les autres.
Créer un modèle en quelque sorte.
Un modèle qui soit le nôtre. Et c'est possible. Il faut que maintenant le politique soit attendu sur ce terrain-là. Le vrai terrain.
Merci beaucoup, merci à tous, merci à Yves Ekwayamahizo depuis Vienne, consultant international, expert auprès de l'Union africaine qui était avec nous depuis Vienne. Merci à Hichem Benaïch, merci beaucoup, rédacteur en chef de New African. Merci à vous Dominique Koukou, merci à toute l'équipe du Grand Débat, particulièrement Stéphanie Hartmann, assistante de production, à Guy Kalenda, coordinateur d'antenne. L'émission a été réalisée comme chaque jour par Jérôme Giliberto. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Grand Débat. Bonne soirée à l'écoute d'Africa numéro 1. Prenez soin de vous et puis soyez fidèles au rendez-vous demain.
Le Grand Débat avec Francis Laloupo.